Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.
Le dossier de cette édition, faut-il réaffirmer la masculinité? La question peut sembler artificielle. De fait, un demi-siècle après les années 60 et la fin du patriarcat, beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existentiel, au point que des stages sont désormais proposés. On appelle cela le mouvement viriliste. Il a commencé aux États-Unis. Une partie de l'Église lui donne aujourd'hui un écho. Sport, conférences, retraite. Dossier réalisé par Julie Becriche et Thierry Breton.
Des hommes, exclusivement des hommes, réunis pendant 4 jours autour d'un thème, la masculinité. Ils sont plus de 300, fervents catholiques, tous traversés par une question existentielle. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? Qu'est-ce que la société attend d'eux?
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à la crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace, publié en avril 2017 aux éditions Remue-Ménage. Et nous sommes pour parler de cet ouvrage et de la thématique de la crise de la masculinité, entre guillemets, qui est très à la mode aujourd'hui, qui est portée par un certain nombre de penseurs que nous aimons beaucoup dans cette émission, comme Éric Zemmour, auteur du Premier Sexe, comme Alain Soral, auteur de Vers la féminisation, et de tout un tas d'autres réactionnaires et masculinistes qui portent ce discours, qui va même jusque au journal télévisé de France 2, avec la valorisation, un reportage de David Pujadas, 50 ans après la fin du patriarcat, je cite, sur ces pauvres hommes sans repères qui sont obligés de se retrouver de manière bien virile dans des stages qui font quand même sérieusement penser à une forme de secte d'extrême droite religieuse chrétienne. Nous sommes donc pour parler de ce sujet éminemment d'actualité avec l'auteur donc de ce livre, La crise de la masculinité, Francis Dupuy-Déry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et auteur notamment de « L'anarchie expliquée à mon père », « Les Black Blocs » et plus spécifiquement sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, de « Le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué », également publié aux éditions Remue-Ménage en 2015. Et nous avons également effectué avec lui une autre émission sur la question des hommes anarchistes face au sexisme et également de la nécessité d'une posture pro-féministe en tant qu'anarchiste. Donc bonjour Francis.
Bonjour.
Alors, autour de cet ouvrage qui parle d'un thème très intéressant, qui revient de manière lancinante, hein. D'ailleurs ça a été le sous-titre plus exactement du dernier volume de l'histoire de la virilité, hein, qui est paru il y a quelques années aux éditions du Seuil et auquel nous avons consacré d'ailleurs plusieurs notes de lecture. Je me souviens très clairement que quand j'avais vu le sous-titre de ce troisième tome, La crise de la masculinité, la crise de la virilité, pour le coup, c'était le thème, point d'interrogation, mais que c'était quand même un sous-titre un petit peu, que je trouvais quand même un peu fort de café. À la limite, peut-être qu'on peut y voir quelque chose on pourrait retourner ça en disant, Ah, très bien, la crise de la masculinité en tant qu'identité socialement construite des dominants, de ceux qui profitent et qui dominent dans le cadre des rapports sociaux de sexe, des rapports de genre, qui profitent, disons, de la société patriarcale et de tous les avantages que ça implique en termes de répartition des tâches ménagères, en termes de domination dans les relations sexuelles, dans le temps de parole, etc., etc. On pourrait se dire très bien, sauf que en général, les gens qui parlent de la crise de la masculinité, ce n'est pas pour dire super, les mouvements féministes ont réussi à enfin battre en brèche depuis les années 70 l'hégémonie sexiste, ont commencé à s'attaquer sérieusement au roc du patriarcat, mais c'est pour déplorer la perte d'une identité postulée comme naturelle, comme transhistorique, comme n'ayant rien à voir finalement avec la société et les configurations culturelles contingentes qui peuvent être faites et défaites au cours de l'histoire, mais à postuler finalement le fait que le féminisme était un mouvement qui s'attaquait à la nature et notamment à l'existence d'une nature féminine et d'une nature masculine. Et dans cette partie sur la crise de la masculinité, qui d'ailleurs va de pair avec un discours sur la crise de la féminité traditionnelle, les femmes ne font plus ci, les femmes ne font plus ça, qui va de pair avec tout un discours qui est extrêmement misogyne, anti-queer, qui finalement prône une féminité traditionnelle, la femme au foyer, le lien mystique avec l'enfant, etc., etc. Il y a un pendant, voilà, et c'est cette fameuse crise de la masculinité. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler, Francis, du coup, de c'est quoi finalement ce discours sur la crise de la masculinité aujourd'hui, comment il s'est développé, quels sont ses arguments, que je peux lui répondre d'ailleurs, et puis aussi voir est-ce que finalement il n'y a pas des précédents historiques, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de longue durée un peu de ce discours sur la crise de la masculinité?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, je vais commencer par le deuxième élément, c'est-à-dire la perspective historique. Quand ça fait une dizaine d'années maintenant que je m'intéresse à ce discours, et effectivement, je l'avais travaillé entre autres avec Mélie Sablet, qui est historienne et sociologue féministe aussi, qui a travaillé sur entre autres sur ce qu'on appelle au Québec la tuerie ou l'attentat antiféministe de l'école polytechnique du 16 décembre 1989. Par un type qui est rentré à l'école polytechnique armé d'une arme semi-automatique qui a ciblé les femmes, qui a tué 14 femmes d'ailleurs cette journée-là, en déclarant, c'est une survivante qui l'a rapporté, en déclarant qu'il détestait les féministes et que son attaque était contre les féministes. Il avait une lettre sur lui, il s'est suicidé sur les lieux avant l'arrivée de la police, qui disait que les féministes avaient toujours gâché sa vie. Et Mélie Sablet a montré que donc tout cet événement, évidemment, qui a été un choc pour la société québécoise, a été traité par plusieurs médias comme la preuve en fait qu'il y avait une crise de masculinité et que ce type, ce terroriste en fait souffrait d'une crise de masculinité, l'absence du père, etc. Et c'est pour ça qu'il en était venu à ça. Bref, donc j'ai beaucoup travaillé avec Mélie Sablet, j'ai travaillé avec d'autres là-dessus depuis des années, mais au début donc on s'intéressait vraiment à la forme contemporaine, entre autres dans les groupes de pères séparés, divorcés, on pourra en reparler très certainement dans quelques minutes. Mais dans le livre que j'ai proposé, une part importante du travail, c'est d'en faire aussi la généalogie de l'histoire, parce qu'en fait, en faisant une recherche très rapide, avec quelques mots-clés sur des moteurs de recherche informatiques, en fait, je suis tombé sur plein de textes qui ne parlaient pas du tout de la situation contemporaine, disons, post-68, pour le faire très rapidement, un peu à la Zemmour, où on dit que c'est à partir de là que tout fout le camp. Mais en fait, le sénateur Caton, à Rome, 200 ans avant Jésus-Christ, se lamente que les femmes romaines prennent trop de place, s'habillent avec des vêtements trop vifs, et en fait, que les hommes romains sont soumis à la domination féminine jusque dans leur résidence.
Et efféminés.
Efféminés, exactement. À l'époque où, en fait, le père et le mari à Rome ont tout pouvoir sur la maisonnée. Donc, c'est quand même incroyable. Et après ça, à la sortie du Moyen-Âge, on a en fait des exemples dans le royaume d'Angleterre, dans le royaume de France, de panique, une sorte de panique morale sur le fait que les femmes ne s'habillent pas comme des vraies femmes et que les hommes ne s'habillent pas comme des vrais hommes et que les uns et les autres ne sont pas à la place qui devrait correspondre à leur identité de sexe, qui est d'ailleurs vraiment en train de se cristalliser à la sortie du Moyen-Âge et au début de ce qu'on appelle la Renaissance, comme l'a montré Silvia Federici et d'autres, Joanne Kelly et d'autres historiennes féministes. après une période au Moyen Âge, disons, plus égalitaire et plus libertaire en termes de rapport de sexe, pour faire très 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 vite.
Enfin, très relativement.
Oui, très relativement, mais où il y a moins de division sexuelle du travail, parce que le privé et le public, déjà, c'est quelque chose qui est moins segmenté. C'est des sociétés agricoles. Au niveau des vêtements aussi, dans les classes populaires, il y a moins de différence entre les sexes. Les enfants, garçons et filles, ont les mêmes jouets, ont les mêmes vêtements, etc. Donc, des choses qui, au 16e, 17e, 18e siècle, vont prendre une importance considérable pour justement discipliner, vraiment, c'est presque de la drill militaire, là, discipliner les corps et les esprits et les attitudes et les postures avec les coiffures, les vêtements, etc., ce qui est un homme, ce qui est une femme, qui a évidemment un impact, après ça, matériel dans la vision sexuelle du travail. Donc, ce que j'ai constaté, ce que j'ai documenté, c'est donc les discours de crise de la masculinité dans l'histoire, principalement en Occident pour ce qui est de l'histoire, en donnant des exemples, en m'attardant plus spécifiquement au cas au 19e siècle et au cas des États-Unis, de la France et de l'Allemagne. Je prends ces trois exemples-là, parce qu'ils sont bien documentés, très intéressants. Aussi des sociétés qu'on va dire presque par essence culturellement efféminées, en fait matriarcales. Je discute du cas de la Bretagne en France et du Québec au Canada, mais aussi de la société des communautés afro-américaines aux États-Unis, qui vont être qualifié de matriarcal pour expliquer en fait pourquoi les jeunes hommes afro-américains auraient des problèmes, la toxicomanie, la délinquance, etc. Ça, c'est dans les années 50-60. Et donc, en fait, on réalise quelque chose de très bizarre quand on s'intéresse à ça dans une perspective historique. Et c'est une historienne, Judith Allen, qui l'a dit, c'est quand on s'intéresse à la question de la crise de la masculinité dans une perspective historique, on réalise qu'en fait, sur 500 ans en Occident, les hommes sont toujours dits en crise. C'est quand même bizarre. Et là, on est à des époques où, en fait, les femmes, elles n'ont pas le droit de voter, elles n'ont pas... Il y a des monarchies, mais en tout cas, elles n'ont pas le droit de voter, elles n'ont pas le droit d'être élues, elles n'ont pas le droit de gouverner, elles n'ont pas le droit de porter les armes, elles n'ont pas le droit d'être juges, elles n'ont pas le droit d'être dans la police, elles sont exclues des universités, elles sont exclues de la plupart des professions, elles n'ont pas le droit de garder leur nom quand elles se marient, c'est pas elles les enfants, etc. Bon, bref, on est vraiment dans une société où je pense que tout le monde aujourd'hui, même quelqu'un comme Éric Zemmour, probablement serait d'accord pour dire qu'on est dans des sociétés patriarcales. Et pourtant, pendant 400-500 ans, à chaque fois qu'une femme déroge de ce qu'on identifie comme la norme féminine, ben, il y a une sorte de panique morale et on dit qu'il y a une crise de la masculinité. Donc, je me suis dit, c'est quand même très étrange et très suspect, surtout. Et avec Judith Allen et d'autres, donc, j'en suis venu à la conclusion que cette crise de la masculinité, en fait, avant d'être un phénomène concret, sociologique ou même culturel, c'est un discours, c'est une rhétorique. Et c'est une rhétorique qui, en fait, sert à définir ou redéfinir ou affirmer ou réaffirmer qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, dans ses attitudes psycho-éthiques, disons. Donc, le masculin, c'est ce qui est actif, ce qui est autonome, ce qui est rationnel, ce qui est fort, ce qui est agressif, ce qui est compétitif. La femme, c'est ce qui est émotif, collaborateur, dans le care, passif, doux, etc. Donc déjà, ça, c'est évidemment une dichotomie de la nature humaine totalement absurde. Alors que toutes ces valeurs, qu'elles soient positives ou négatives, de toute façon, c'est des valeurs ou des attitudes humaines que n'importe qui peut avoir indépendamment de son sexe, la couleur de sa peau ou de son âge à la limite. Et donc, mais là, on les divise vraiment en fonction des sexes. Et évidemment, de ça doit découler, en fait, des fonctions, des rôles, des emplois, etc.
Donc, d'une certaine manière, ce que tu dis, c'est que cette espèce de discours de la crise de la masculinité, s'il a finalement cette espèce de précédence historique bien avant aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il a, c'est un discours finalement qui a une fonction idéologique, c'est-à-dire de rappeler perpétuellement, et on imagine que là il y a des différences historiques puisque
tout à fait.
La justification idéologique de la domination masculine et de l'inégalité de genre a été quand même toujours un peu différente, parfois mm-hmm. c'est en référence à Dieu, aux humeurs, à l'anatomie, etc., etc. Donc là par exemple je renvoie à une note de lecture qu'on a fait sur un ouvrage de Thomas Laker sur la fabrique du sexe, mais en tout cas, malgré effectivement ces différents avatars qui justifient, évidemment c'est en partie une fiction sincère, hein, mm-hmm. c'est pas complètement, simplement un truc qui est complètement fait par de sincérité, mais enfin peu importe. Tous ces discours idéologiques de justification de la domination masculine, ils sont basés notamment sur l'assertion qu'il y a une différence essentielle entre les hommes et les femmes, qui sont liés à plein de choses, au tempérament, aux humeurs, à l'anatomie, aux récits bibliques, etc., etc. Et finalement, ce discours de la crise de la masculinité, effectivement, c'est une forme de panique morale, c'est-à-dire que si la masculinité est en crise, puisque dans ce discours patriarcal, les êtres humains sont soit des hommes, soit des femmes, sont avant tout des hommes ou des femmes, sont définis en tant qu'hommes ou en tant que femmes, alors qu'en fait, à part pour un certain nombre de choses, globalement, on s'en fout à peu près, quoi. Tout le reste n'est que ratiocination et interprétation et signification culturelle et sociale et tout ça. Pour plein de choses de la vie, qu'on soit un homme ou une femme, franchement, on s'en fout, quoi. Eh bien, malgré tout, dans cette vision où tout passe par, effectivement, le fait qu'on soit un homme ou le fait qu'on soit une femme, eh bien, ce discours de la crise de la masculinité, en fait, c'est une manière de réaffirmer la domination masculine, d'une part, et d'autre part, d'essayer de provoquer chez les hommes, mais, et aussi chez les femmes, une espèce de panique morale de, finalement, une sorte de menace anthropologique, de menace de la nature humaine, les hommes et les femmes disparaissent et tout ça. Il me fait un peu penser, peut-être un peu mauvaise langue, mais au discours du Ku Klux Klan qui disait « Oulala, l'émancipation des Noirs, ça va être l'abolition de l'humanité parce que les races vont se mélanger. »
Exactement, c'est pas mal la même logique. Et en plus, à la fin du 19e siècle, par exemple, et au début du 20e, la crise de la masculinité, elle est souvent croisée avec des logiques nationalistes racistes. Donc, aux États-Unis, c'est lié à l'émancipation de l'esclavagisme. Ou pour des raisons que je n'arrive toujours pas à comprendre, on dit que l'émancipation de l'esclavagisme provoque une crise de la masculinité chez les hommes blancs parce que le noir émancipé est maintenant un violeur, il va se promener et violer toutes les femmes blanches. Et donc, on lynche des milliers d'hommes noirs, souvent les castrant avant d'ailleurs, mais ça c'est lu comme une crise de masculinité blanche, qui est quand même pour le moins dégoûtant. Du côté de la France post-Première Guerre mondiale, il y a une crise de la masculinité parce que apparemment les femmes ne veulent plus avoir d'enfants et que ça va efféminiser par manque de jeunes garçons la société française, la nation française face à l'Allemagne qui, elle, en fait, fait des bons garçons pour la prochaine guerre, et ça va être la catastrophe. Et du côté allemand, évidemment, le féminisme qui efféminise la société allemande est évidemment une production juive, et communiste, évidemment. Mais comme le communisme, c'est aussi une production juive, donc de toute façon, tout est lié aux juifs. Et donc, dans ces trois cas-là, on est au 19e siècle, au début du 20e, on a en fait une production d'un discours, d'une rhétorique de panique morale qui est liée à l'efféminisation, évidemment, fantasmée de la société, vaguement liée au mouvement féministe ou non, d'ailleurs, parce que des fois, c'est lié aussi à l'industrialisation. On dit que l'industrialisation ou l'entrée des hommes dans les grandes villes, où ils vont devenir commis de banque, où ils vont faire du travail plus de bureaux, les efféminisent. Mais ce qu'on voit en étudiant les cas historiques, qui nous permettent, je pense, de beaucoup mieux comprendre aussi la dynamique contemporaine, c'est que dans tous ces cas, de la fin du Moyen-Âge, donc 16e siècle, jusqu'à fin du 19e, début du 20e, ce qui était vraiment impressionnant aussi, c'est que ce discours de la crise de la masculinité, il est produit, porté, diffusé, par les institutions les plus puissantes de la société. Au XVIe siècle, c'est la cour du roi d'Angleterre ou du roi de France, donc c'est le roi lui-même qui interpelle les autorités religieuses. Ils sont appuyés par la production de l'élite intellectuelle, entre autres universitaire et culturelle, au niveau de pièces de théâtre, par exemple, qui mettent en scène des femmes dominatrices face à des maris dominés, mais qui doivent se mobiliser pour reprendre le contrôle. Le système de justice se mêle de tout ça. On stigmatise les femmes qui s'habillent comme des hommes. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur le travestissement où des femmes sont incarcérées parce qu'elles auraient refusé de s'habiller comme de vraies femmes. Et donc, c'est vraiment les institutions les plus puissantes de la société. On arrive à la fin du 19e siècle où, aux États-Unis, le président des États-Unis lui-même, Roosevelt, va déclarer qu'il y a une crise de la masculinité, qu'il faut reviriliser les hommes américains. En Allemagne, ce sont des ligues constituées d'aristocrates, d'officiers supérieurs de l'armée, de médecins, d'universitaires qui ont des ligues contre l'émancipation des femmes et contre la féminisation de la nation allemande. En France, ce sont des chambres de commerce qui organisent des grands colloques pour la repopulation et contre l'efféminisation de la société. C'est les notables, c'est vraiment l'élite qui se bat contre ça. Et qu'est-ce qui arrive quand on tient un discours de crise, que la crise soit réelle ou fausse d'ailleurs? Ça, c'est des spécialistes des médias ou de la communication politique qui l'ont noté et que je présente donc dans mon livre. C'est que un discours de crise peut, même si la crise est fausse, si la crise est fantasmée, peut avoir des effets réels, parce que le discours de crise est une interpellation publique d'une catégorie de la société qui dit « on est en crise, donc on a besoin d'aide ». Donc il faut mobiliser des ressources, il faut mobiliser des services, il faut mobiliser des ressources pour nous venir en aide, parce que c'est la catastrophe. Et si en plus on dit que cette crise des hommes, par exemple, est une menace pour la nation, pour la puissance militaire de la nation, pour contrevient à l'ordre de Dieu, par exemple, ben là, on voit évidemment le niveau de la catastrophe, il est total, quoi. Et donc, cette rhétorique de la crise a pour effet concret, à la fin du 9e siècle, par exemple, et au début du 20e, alors que les hommes contrôlent à peu près toutes les institutions de toute façon qui sont influentes et puissantes dans les sociétés, provoque en fait le développement de ressources et d'institutions pour les hommes et par les hommes. Des exemples très précis, à la fin du 9e siècle, les Boy Scouts, l'athlétisme, le sport amateur, et Theodore Roosevelt et d'autres le disent explicitement. Tu as parlé de retraite catholique pour les hommes en France qui ont été couverts par France 2, c'est ça? En fait, ça reprend quelque chose à la fin du 9e siècle qui s'appelait le muscular Christianity, c'est-à-dire le christianisme viril ou musculaire, pour le traduire vraiment littéralement. Et c'était en fait des socialistes chrétiens qui parlaient d'une féminisation de la société. Ils disaient il faut reviriliser nos hommes. Et donc, ils organisaient des camps, en fait, d'entraînement pour hommes. Donc, les Boy Scouts, évidemment, c'était pour les enfants. Et quand on va voir les textes de l'époque des fondateurs des Boy Scouts en Angleterre et aux États-Unis, ils disent nos garçons sont en train de s'efféminiser. Ça provoque une efféminisation générale de la société. Et il faut les remasculiniser. Et pour remasculiniser des hommes, il faut être entre hommes, entre garçons, écarter les mères, écarter les femmes. Et on s'en va dans la forêt, jouer de la guitare, couper du bois, camper, entre hommes, la chasse, l'athlétisme, c'était ça. Et tout ça, c'est des ressources par les hommes et pour les hommes. Dans une société, là, on est à la fin du 9e siècle, hein, c'est une société où les hommes contrôlent à peu près tout, là. L'armée, la police, on a des clubs, il y a des fraternités, les ouvriers ont des clubs ouvriers. C'est pas comme si les hommes manquaient d'institutions et d'organisations, mais en plus, ils en créent d'autres encore.
Effectivement, toute cette rhétorique de la crise, de la catastrophe anthropologique ou nationale qui crée effectivement une mobilisation. On peut penser aussi à un ouvrage de Klaus Tevelwaite qui s'appelle Fantasmagorie, sur justement comment est-ce que dans les années 20, il y a tout un discours sur l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale parce qu'elle a été affaiblie par les Juifs, parce qu'elle a été efféminée. Et du coup, il y a le besoin d'une homosociabilité virile et qui va renaître justement dans les corps francs. Et absolument. Dans les SA, et qui va donner finalement le
fascisme,
le fascisme, le nazisme, qui est un peu un parangon de cette espèce de virilisme, de crise, entre guillemets, de crise, et qui parfois, et c'est là où effectivement une approche qui segmente pas forcément trop la question du sexisme, de l'antisémitisme, la question du racisme peut être assez pertinente, puisque là, pour le coup, on voit bien qu'en Allemagne, par exemple, le lien entre la question de l'enjuivement et de l'effémination, du fait que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, c'est à cause des Juifs, mais c'est à cause de l'effémination que tout finalement, tout ça se mélange. Et là, pour le coup, c'est lié à un fait matériel qui est réel, c'est-à-dire, oui, l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, mais c'est pas à cause des Juifs ou des femmes, c'est juste, elle a perdu la Première Guerre mondiale. Et derrière, pour remobiliser la nation, on fait appel justement à ce discours de la crise de la masculinité, tout comme en France, on va faire appel aussi à un discours sur la crise de la masculinité. Moi, il y a deux choses qui me font penser à ça. C'est d'abord que tu as parlé du sport. Pierre de Coubertin, qui est le fondateur de... On a fait une émission sur l'histoire des Jeux Olympiques. Et dedans, Jean-Marie Brome, qui a pas mal travaillé sur l'histoire justement de Pierre de Coubertin, montre bien comment est-ce que Pierre de Coubertin, par le développement des institutions sportives, un de ses objectifs, c'est le sport, c'est une préparation à la guerre, c'est quelque chose qui doit permettre aux hommes français avant la Première Guerre mondiale. Donc là, on est dans la réponse à une crise, mais qui n'a rien à voir avec le mouvement des femmes. Pour le coup, c'est la défaite de 1871. Le sport doit permettre aux hommes de se reviriliser. Lui, il parle même, il faut bronzer la race. C'est-à-dire, bon, il y a une dimension raciste en plus dans tout ça, quoi. Et puis, ça me fait penser aussi à la, à la loi de 1920 qui criminalise l'avortement et la contraception. La crise, effectivement, est dans certains cas pas du tout liée effectivement à une quelconque émancipation des femmes. Ça peut être liée à des défaites nationales, 1871 pour la France, 1918 pour l'Allemagne. Et puis après, ça peut être lié aussi, parfois, le patriarcat supporte tellement mal d'être remis en cause de la moindre des manières, que ce soit en 14-18, où effectivement les femmes ont peut-être pu, entre guillemets, bénéficier de 4 ans où les hommes, elles ont moins eu à supporter les hommes. Bon, elles ont eu à supporter plein d'autres choses, mais bon, moins les hommes en tout cas. Du coup, il y a une volonté effectivement de refaire des femmes au foyer, des poules pondeuses pour la nation, etc., etc. Comme après tous les discours sur la crise de la masculinité qui commencent dans les années 70, j'imagine que tu vas en parler, et jusqu'à aujourd'hui, sont liés au fait que bah, dans les années 70, il se produit bien quand même quelque chose comme un début d'émancipation des femmes, un certain nombre d'avancées liées à des luttes très concrètes.
Effectivement, mais alors là, du coup, puisque dans mon livre, je replace ce discours de la crise de la masculinité dans l'histoire longue, disons, parce qu'on est vraiment sur 500 ans, du coup, ça devient vraiment problématique de voir que après 68, donc 70, etc., et effectivement, là, il y a des hommes qui disent « Oui, mais là, il y a le féministe radical. » Généralement, ils vont dire ça pour que ça soit plus effrayant, quoi. Et donc là, on est en crise de masculinité. Et, mais le problème, c'est qu'en fait, leur argument, il est le même qu'on entend depuis 400-500 ans. Et donc, il y a une sorte de problème, disons, conceptuel ou analytique ou théorique, et même politique, de dire « Donc, est-ce que c'est vraiment parce que les féministes, à la fin des années 60-70, ont réellement des gains sur l'avortement ou le droit de divorcer ou... etc. Ou en fait, c'est parce que c'est simplement toujours ce discours de la crise de la masculinité qui est en fait constitutif réellement du discours sur la masculinité. En fait, le discours de la masculinité implique un discours de la crise de la masculinité, et ce discours de la crise de la masculinité, comme je disais au début, donc, il n'a en fait pour objectif réel que de réaffirmer qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme, et il a pour objectif en fait de bloquer ou de dénigrer ou de critiquer en fait n'importe quelle tentative vague des femmes de s'émanciper des normes. Et donc, à la fin des années 60, l'enjeu, c'est pas parce que les hommes maintenant sont réellement en crise parce qu'il y a réellement eu un mouvement féministe. Non, c'est parce qu'il y a un mouvement féministe que les hommes veulent continuer à bloquer, qu'ils vont reprendre le même discours qu'ils prennent depuis 400-500 ans, qui est « Ah ben là, si vous vous émancipez, nous, on est en crise. » Et là, en fait, seulement... et donc là, on va... même s'il y avait déjà eu des organisations dédiées à lutter contre les féministes dans les décennies précédentes, à la fin des années 60 et au début des années 70, on a aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Québec et ailleurs, en Occident, on a quelque chose de particulier, c'est ce qui va s'appeler le mouvement des hommes. Et le mouvement des hommes, au début, et ça, c'est, je pense, c'est très intéressant et très, très inquiétant par rapport aux hommes pro-féministes, le mouvement des hommes, au début, en fait, il est constitué à Berkeley, par exemple, aux États-Unis, ou en France aussi, pour ce que j'en ai compris, ou en Allemagne, il est constitué généralement d'hommes pro-féministes qui sont généralement en fait des compagnons ou des camarades ou des amis ou des collègues de féministes du mouvement féministe de fin des années 60 qui se disent ben, « il faut bien qu'on fasse quelque chose nous aussi, on est antisexiste, antipatriarcal » et en fait ils imitent le mouvement des femmes, ils se créent leur propre groupe de conscience ou groupe de parole qu'ils appellent, ils se retrouvent en non-mixité, mais dans une perspective antisexiste. Le problème, c'est qu'après quelques années, en étant seulement entre hommes, les thématiques principales qui vont sortir ne sont plus des thématiques antisexistes ou antipatriarcales, c'est principalement la question des pères, la souffrance des hommes face à qui? Ben finalement, face à nos copines féministes qui nous ont inspirées il y a 2-3 ans, mais qui maintenant ne sont plus avec nous. Et donc, en fait, ces espaces du mouvement des hommes qui étaient au départ créés par des hommes pro-féministes vont être totalement récupérés, soit par les mêmes hommes ou d'autres hommes, par des hommes principalement antiféministes. Et dans le livre, je donne même des exemples très, très précis d'événements, des congrès du mouvement des hommes aux États-Unis, par exemple, où devant le bâtiment, il y a des hommes qui tiennent des pancartes en disant « les femmes nous dominent » et qui sont en train de torpiller en fait le mouvement ou de complètement le réorienter avec des nouveaux axes, des nouveaux groupes de réflexion dans des congrès, dans des événements, des rassemblements du mouvement des hommes. Les hommes gays vont partir et se retrouver dans le mouvement gay et lesbien et évidemment, dans les années 80, totalement mobilisés sur la question du sida, qui est une catastrophe totale, évidemment. Les hommes pro-féministes vont être très rapidement hyper minorisés dans ce mouvement. Et ceux qui vont prendre de plus en plus de place, en fait, le mouvement des hommes des années 60, fin des années 60, début des années 70 et 80, à la fin des années 80, au début des années 90, en fait, devient le mouvement des pères. Et le mouvement des pères séparés et divorcés, là, du coup, il n'est plus du tout pro-féministe et antisexiste, même si des fois, sur leur site Internet, il y a le bluff de « nous sommes pour l'égalité entre les sexes », etc. Mais il est dans une posture vraiment, vraiment anti-féministe.
Masculiniste aussi.
Masculiniste, avec des logiques évidemment sexistes, c'est-à-dire un homme c'est ça, une femme c'est ça, un garçon a besoin de son père, etc. Et en reprenant évidemment le discours de la crise de la masculinité.
Oui, c'est intéressant effectivement de rappeler comment est-ce que effectivement ce discours autour des pères, il est très important dans... Dans la rhétorique, effectivement, sur la crise de la masculinité, on pense à toute cette littérature psychanalytique après 68 sur la fin des pères,
l'autorité, la fin du père, etc.
C'est ça. Et sur le fait que du coup, les petits garçons seraient complètement perdus et que du coup, ça ferait des enfants ratés. Père absent, enfant raté, je crois qu'il y avait un livre d'ailleurs qui avait à peu près
au
ce titre-là.
Au Québec, de Guy Corneau, oui. Qui est un des fondateurs d'ailleurs du réseau Hommes, donc justement des rencontres entre hommes.
C'est ça. Et un mouvement qui, sur certains aspects, et c'est là où il est aujourd'hui très, très menaçant, hein, même si ce n'est pas une émission qui est aujourd'hui particulièrement consacrée au masculinisme, mais qui singe beaucoup le féminisme, c'est-à-dire qui va dire « oui, mais regardez, les hommes, ils vont plus à la guerre, ou regardez, c'est plus ceux qui font les travaux, il y a plus des boueurs hommes, ou il y a plus de machins, ou regardez, c'est systématiquement les hommes, ils n'ont pas les gardes d'enfants, et tout ça. » On sent voir qu'en plus, la question des gardes d'enfants, en vrai... tient aussi à une logique sexiste de c'est les femmes qui s'occupent des gamins, quoi.
Tout à fait.
Bon, enfin, mais il y a toute une rhétorique, et du coup, comment est-ce que tu dirais que le discours sur la crise de la masculinité, il est remobilisé, disons, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, je pense à des publications en France qui ont été quand même relativement importantes, vers la féminisation d'Alain Soral, le livre de Zemmour, Le Premier Sexe, qui a quand même bénéficié d'une couverture médiatique assez importante. Comment est-ce que tu verrais, parce que là, on voit bien comment est-ce qu'effectivement ce discours de la crise de la masculinité, il est remobilisé. Enfin, il part finalement des années 68, puis voilà, il va donner naissance effectivement au mouvement des pères dans les années 80. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais du discours? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Comment est-ce que tu le caractériserais, ce discours sur la crise de la masculinité?
Alors, au niveau des intellectuels, parce que là, c'est de ça, là, on s'est dégagé, on pourrait revenir éventuellement sur le mouvement des hommes ou le mouvement des pères qui ont des actions plus militantes, avec des discours militants, mais des actions réellement militantes, comme les fameux pères à la grue, là, en 2013, le printemps des pères, etc. Il y a les intellectuels. Comme n'importe quel mouvement social, il y a des intellectuels. Et donc, effectivement, en France, on pense entre autres à Soral et à Zemmour, qui sont évidemment marqués à l'extrême droite, en fait. Mais il y a aussi des avocats ou des psychanalystes aussi, ou des psychologues qui vont prendre la parole dans les médias quand il y a des cas de ce qu'on appelle les fameux drames familiaux, des homicides de femmes, en fait. Mais Soral et Zemmour, en fait, ils font écho à des discours aux États-Unis, par exemple, qui ont été identifiés comme les discours des « angry white men », donc les hommes blancs en colère. Et là, ça croise, en fait, un désarroi déclaré des hommes de la masculinité face à la féminisation, mais où on croise aussi d'autres enjeux, chez Sorel, Silvoir ou chez d'autres, qui est aussi une critique du libéralisme, critique de la mondialisation, dans le cas, évidemment, de la France, c'est l'Europe, où la catégorie des hommes blancs serait toujours la catégorie des hommes blancs hétérosexuels, évidemment. C'est toujours la catégorie qui perd, nous dit-on. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Les hommes blancs en colère, les angry white men, c'est exactement la même logique. C'est toujours eux qui seraient floués par les femmes, les noirs, les immigrants, etc., qui, en fait, eux, tirent leur épingle du jeu de la mondialisation parce qu'il y a des quotas, parce que, etc., etc., mais... les hommes blancs, c'est toujours eux qui perdent.
Donc là, il y a dans l'élection de Trump, justement, ce genre de groupe a vraiment joué un rôle central.
Absolument, absolument. Et c'est vraiment cette logique que, moi, évidemment, je perçois comme une logique de bouc émissaire. Donc, cette catégorie peut avoir, par ailleurs, des vrais problèmes économiques, disons, en termes de stagnation ou régression de leurs conditions de vie matérielles. Mais plutôt que de faire porter le blâme sur le patronat ou le FMI, Banque mondiale, qui sont généralement contrôlés plutôt par des hommes, les accords multilatéraux, libre-échange, etc., ben, ils disent ben c'est les femmes, ou c'est les immigrants, etc. Mais il faudrait faire attention de penser que c'est un discours qu'on retrouve seulement à droite et l'extrême droite. Évidemment, Zemmour et Soral sont de droite et d'extrême droite. Je vous encourage, si vous avez du temps à perdre, à aller écouter... sur YouTube, la conférence de Alain Badiou sur la féminité, ça dure 1h45, c'est passionnant. il arrive en 1h45 à parler de la féminité au Collège de France sans nommer une seule femme. Donc, c'est Goethe, Hegel, Kant, je ne me rappelle plus quel philosophe il mentionne. Et en fait, Alain Badiou, qui est donc un philosophe communiste, maoïste, etc., tient un discours classique de la crise de la masculinité. Les femmes s'en tirent mieux. Et puis, un discours qui n'est pas si loin, évidemment. Il y a beaucoup de différences entre Badiou et Soral. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Mais Soral dit que les femmes font le jeu de la société de consommation et que ce sont des consommatrices et que c'est le capitalisme, en fait, qui a favorisé l'émancipation des femmes parce qu'en fait, ça crée un nouveau bassin de consommatrices. Badiou dit des trucs qui sont assez proches de ça. Il dit que les femmes, il parle des jeunes hommes des banlieues qui sont les plus floués des hommes en France, mais il dit que les jeunes filles des banlieues s'en tirent plutôt bien, elles rentrent dans le capitalisme et sans réfléchir, parce qu'apparemment, selon Badiou, les femmes manquent d'intelligence. Heureusement qu'il est là pour leur expliquer. Et on a chez Michéa des propos totalement incroyables sur la domination des mères castratrices qui poussent leurs enfants à la consommation. On a l'impression que c'est la mère monoparentale pour Michéa qui contrôle le capitalisme mondial. C'est quand même incroyable. Et puis, ils sont près d'un type qui est plutôt peu connu, mais Michel Kluskar, qui est un des maîtres à penser de Soral, selon ce qu'il dit lui-même, qui lui aussi est un critique anticapitalisme et antilibéral virulent, mais qui, sur les femmes et la féminité, la question des rapports entre les hommes et les femmes, sont vraiment d'une misogynie.
Pour le coup, c'est un stalinien, d'ailleurs.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'à l'extrême gauche, donc il y a Badiou, Michéa, qui lui se prétend plutôt anarchiste, l'autre, le stalinien, le maoïste, puis à l'extrême droite, il y a Soral, Zemmour. C'était juste pour dire que ça traverse le spectre.
Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, qu'effectivement, évidemment, l'extrême droite n'a pas le monopole du discours sur la crise de la masculinité et sur la réaffirmation, finalement, des identités de genre et finalement, à travers elle, de la domination masculine, puisque c'est sa principale fonction.
C'est ça qui est en jeu. Oui.
C'est ça qui est en jeu. C'est bien la domination masculine, c'est pas tellement l'identité socioculturelle en tant que telle. D'ailleurs, cette identité socioculturelle étant une identité de dominant, c'est bien ça dont il s'agit. Et je pense qu'avec Badiou, Michéa et Kluskar, en plus, on peut y voir, dans ce discours sur la crise de la masculinité, quelque chose comme une critique, que nous, on appelle une critique tronquée du capitalisme, c'est-à-dire qui va en fait associer le capitalisme uniquement à la surconsommation, à sa phase libérale, etc., etc., et qui du coup va projeter sur les femmes effectivement ce côté la consommation, la frivolité, le désir, c'est tous les thématiques intimes, oui, de Michel Kluskar.
Mais sauf que même ça, c'est absurde, parce que d'un point de vue socio-économique, toutes les données disent bien que les femmes ont moins d'argent que les hommes. Donc s'il y a quelqu'un qui consomme plus, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Mais évidemment, nous, les hommes, on a souvent l'habitude de regarder les femmes et de dire « Ouais, c'est un peu frivole ce que tu consommes. Moi, ce que je consomme, c'est important. Ouais. C'est mes baskets, ou c'est mon livre, ou c'est mon téléphone cellulaire. Moi, c'est de la consommation importante, parce que moi, je suis important et je fais une consommation sérieuse. » Mais par définition, puisque les hommes ont plus d'argent, ceux qui consomment le plus, c'est les hommes. Ça, c'est certain. Et donc, oui, les femmes consomment. Les femmes ont des cartes de crédit. Ben oui, les femmes ont des cartes de crédit, mais les hommes ont plus de cartes de crédit. Leur marge de crédit sur leur carte de crédit est plus grande que celle des femmes.
Mais pourtant, c'est associé.
Absolument. C'est les dépenses frivoles des femmes. Ça a toujours été ça.
Un petit peu comme le discours sur l'antisémitisme qui voit que, oui, les juifs manient l'argent alors que c'est une petite partie des juifs qui sont effectivement des capitalistes financiers et qu'en réalité, une grande partie des capitalistes financiers.
Et donc, les consommateurs, en fait, en termes de capacité de consommation, c'est les hommes plus que les femmes. Mais après ça, c'est quand même absurde d'un point de vue anticapitaliste de penser que le capitalisme, ça vient de la consommation des femmes. Là. Puisque le capitalisme, il est contrôlé en très grande majorité par des hommes. Quand je dis le capitalisme est contrôlé, c'est-à-dire qui sont actionnaires, qui sont PDG, qui contrôlent l'économie, qui est ministre de l'économie, qui dirige l'OPEP, les grandes structures économiques internationales, c'est des hommes. Qui ont les plus grandes fortunes au monde, c'est des hommes. L'analyse anticapitaliste, pour ce que j'en comprends, je ne suis pas marxiste, je suis juste anarchiste, mais il me semble que c'est quand même qui contrôle les moyens de production. Ce n'est pas juste qui consomme. Et donc, il y a plusieurs problèmes dans ce discours. Mais après ça, sur le discours de la crise de la masculinité, l'exercice que j'ai fait dans le livre, donc, j'ai fait la perspective historique pour mettre en lumière la dynamique contemporaine. Mais après ça, ce qui est encore, disons, tout aussi étonnant que de réaliser qu'au 16e, 17e, 18e siècle, on parlait déjà en termes de crise de masculinité, C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a de la crise de la masculinité partout, dans des pays où, franchement, généralement, d'un point de vue du stéréotype du pays, on n'a pas l'impression que c'est très féministe. Donc, il y a un mouvement des pères et des discours de la crise de la masculinité, par exemple, dans des pays comme en Pologne ou en Russie. On s'entend que la Pologne, c'est quand même pas le bastion du féminisme international.
Plus leur droit à l'avortement, par
exactement.
Exemple.
Exactement. Et là où, en fait, c'est post-chute du mur de Berlin, donc c'est lié à la libéralisation. Et donc là, les discours se croisent entre crise de la masculinité, néo-nationalisme polonais ou russe et l'influence de l'Église, mais avec des mouvements militants de groupes de pères. Je suis tombé sur des études sur des mobilisations de groupes de pères et de groupes d'hommes en Inde, en Israël, des discours de la crise de la masculinité en Afrique du Sud, en Colombie, au Mexique, etc. Donc en fait, dans le monde musulman, il y a des ouvrages sur la crise de la masculinité dans le monde musulman. D'ailleurs, Zemmour joue là-dessus. Zemmour vous explique que vous, en France, le dernier homme viril, c'est le jeune arabe, et que le blanc français lambda, lui, il était féminisé. C'est d'ailleurs un problème pour Zemmour, évidemment. Mais donc, l'homme arabe peut être super virilisé et pas en crise, alors que c'est l'homme blanc d'origine catholique qui est en crise. Mais quand on essaie d'expliquer les révolutions, ce qu'on a appelé les révolutions arabes de 2011, par exemple, ou même le 11 septembre, dans le New York Times, le Washington Post et ailleurs, il y a eu l'explication inverse, c'est-à-dire si ces hommes arabes se révoltent, c'est parce qu'ils sont en crise de la masculinité. Donc la crise de la masculinité, finalement, ça peut expliquer absolument tout et son contraire. Toutes les communautés d'hommes peuvent être considérées comme en crise de la masculinité. Et c'est pour ça que je reconclus encore que c'est vraiment un outil rhétorique, un outil de propagande, en fait, qui sert selon le besoin qu'on en a, selon le clou sur lequel on veut taper.
Oui, finalement, le discours sur la crise, entre guillemets, de la masculinité, il peut être finalement lié à la défaite de l'Allemagne en 1918, à la défaite de la France en 1871, à
l'attaque du 11 septembre.
L'attaque du 11 septembre, au mouvement des femmes des années 70, à peu près tout et n'importe quoi comme événement. Finalement, c'est un discours qui exprime l'angoisse des dominants, qui majoritairement sont, enfin, qui sont structurellement des hommes, souvent blancs, etc., etc., que, voilà, quelque chose ne va pas rond dans l'ordre du monde, qu'il faut en revenir à une espèce d'ordre naturel, sain et tout ça. Et après, ce discours, alors là, pour le coup, on le comprend quand il s'agit des discours, mais effectivement, celui sur le 11 septembre, c'est intéressant parce que on a un cas un peu différent, c'est-à-dire d'habitude, ça permet aux hommes blancs hétérosexuels de réaffirmer la domination en disant « Regardez, on est en crise, on est en perte de repères, on fait n'importe quoi, on est obligé d'aller tirer dans Polytechnique parce qu'on est perdu quand même, c'est vraiment triste. » Mais comme souvent, quand la cause est très importante, on peut élargir ça à tout le monde, c'est-à-dire que bon, puisqu'il s'agit de prouver au fond qu'il y a un problème aux États-Unis, on va aller dire que finalement la crise de la masculinité, elle est tellement grave qu'elle touche même les hommes arabes. Et c'est pour ça en fait que finalement si on avait un patriarcat un peu plus fort,
ça irait bien.
Ça irait bien, il n'y aurait pas les attentats du 11 septembre.
Exactement, absolument. Et on s'entend qu'avec une clé explicative comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup là. Ça donne la clé d'une explication à absolument tout, toute catégorie d'hommes confondus. On distingue et c'est surtout que ça nous permet de pas du tout distinguer. Par exemple, pour ce qu'on a appelé les révolutions arabes, donc il y a plusieurs commentateurs qui ont dit c'est la conséquence de la crise de la masculinité. Pourquoi? Pourquoi les hommes arabes seraient du Maghreb seraient en crise de masculinité? Ben à cause du chômage, ils n'ont pas d'argent pour se marier et donc ils sont frustrés sexuellement, ils sont frustrés dans leur incapacité à devenir des pères de famille et à construire une famille. Indépendamment de savoir si tout ça est vrai, etc. Ben en fait, ça distingue pas grand-chose là. On distingue pas grand-chose sur comment sont survenus ces soulèvements, ces insurrections, la différence entre la Tunisie, l'Espagne, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, les rôles des partis politiques, les rôles des forces de police, les rôles de l'armée, les catégories d'hommes, le fait que Moubarak, moi ce que j'en ai compris, et Ben Ali, ben, je pense que c'était des hommes, qui avaient l'air particulièrement en crise masculine à l'époque, etc. Et donc on lance comme ça la crise de la masculinité, ce qui nous permet de absolument pas s'informer sur la réalité de tel pays, on connaît rien au pays, on n'a aucune information sur des réalités complexe de ces pays-là. À la limite, on n'a même jamais lu un journal de ce pays-là, mais on dit « Ouais, les hommes arabes sont en crise de masculinité parce qu'ils sont au chômage, etc. » Et donc, on a une clé d'explication. Ce qui est quand même un peu un peu réducteur.
Oui, effectivement, ça fournit une forme d'explication totalisante, c'est-à-dire, bon, les attentats de Charlie, c'est la crise de la masculinité. On peut lire aussi, effectivement, comme semble le faire... on pourrait dériver ça de ce que dit Alain Badiou, finalement, les attentats de novembre 2015, finalement, c'est la crise de la masculinité, quoi. C'est les pertes de repères, le chômage, tout ça, quoi. Bon, alors que, bizarrement, le chômage touche encore plus les femmes, donc ils ont aussi du mal à se marier. Enfin, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la crise de la féminité ne se manifeste pas.
Exact.
Et ces explications totalisantes, on en a un petit peu parlé, mais évidemment vont de pair avec des théories en général assez conspirationnistes, c'est-à-dire le fait que finalement, très clairement, dans le livre d'Alain Soral, Vers la féminisation, clairement, il y a quasiment un complot de la gauche féministe, franc-maçonne, blablabla.
Chez Zemmour, c'est entre les homosexuels et les féministes. Ça, c'est dans le premier sexe.
Le lobby LGBT.
Absolument, exactement, ouais. Oui.
Et du coup, on voit bien que, au final, ce discours de la crise de la masculinité, ça se range un petit peu avec, bon, même s'il y a des différences, avec l'antisémitisme, c'est-à-dire une forme d'idéologie paranoïaque, conspirationniste, qui va attribuer à des groupes qui, en réalité, sont dominés. Mm-hmm. On va leur attribuer une toute-puissance.
Surpuissance, exact.
Voilà, et on va fournir toute l'explication. Bon, la rhétorique, on connaît bien la rhétorique nazie sur le fait que finalement la Seconde Guerre mondiale serait le produit finalement des juifs, etc., etc. On va réussir à. Bon, évidemment, c'est les versions les plus délirantes, mais on voit bien quand même que ce discours de la crise de la masculinité, il a un rapport avec le réel qui est extrêmement étrange, qui va prendre un petit fait, va le tordre, le grossir, etc., etc. Et que ça fond, et que en fait. Il exprime d'une certaine manière une forme de paranoïa des sujets dominants par rapport à des sujets dominés ou par rapport à une remise en cause partielle ou totale ou supposée ou réelle, peu importe, de leur domination. Et ce qui en fait une espèce d'idéologie de crise, mais avec la crise entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement lié à une crise en tant que telle, ou c'est peut-être une crise qui n'est pas liée à la masculinité. Ou qui est... Mais c'est vrai que, et c'est là où on voit effectivement que. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, justement, dans tout ce qu'on vient de dire et dans ton livre, c'est qu'on ne peut pas appréhender ce discours de la crise de la masculinité uniquement en examinant les rapports de genre. C'est-à-dire, en fait, il y a une dimension plus vaste, puisqu'on voit que c'est lié au nationalisme, que c'est lié à la géopolitique. On a un petit peu ce que défend une sociologue, Danielle Kergoat, oui. Un aperçu d'une espèce de consubstantialité des rapports oui. de domination où la masculinité s'interpénètre avec la blanchité, oui. avec l'antisémitisme, etc. Avec le travail, avec la crise du travail. Enfin voilà, on voit qu'il y a plein de choses qui sont liées à cette idéologie de la crise, entre guillemets, de la masculinité. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de central. Et c'est pour ça que ce thème, effectivement, de ce que tu racontes de la crise de la masculinité va même au-delà de la seule question du patriarcat ou de la nécessité d'une réaffirmation des identités d'hommes et de femmes pour renforcer la domination masculine. Mais finalement, c'est presque un phénomène social total, quoi. Mmh. Voilà, et ben en tout cas, je te remercie.
Merci à toi vraiment pour le temps, c'est un privilège.
Pour toutes ces analyses qu'on retrouvera de manière plus développée donc dans ton ouvrage La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace, publié en avril 2017 aux éditions Remus Ménage. Merci.
Merci beaucoup.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.
Thank you.